Foi et turbulence.
Bonjour, mon nom est Francine Robert. Bienvenue à l'émission Foi et turbulence. Mon invitée aujourd'hui sera Mme Odette Bernazzani. Elle est médecin psychiatre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Elle est aussi professeure adjointe au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Odette Bernazzani, moi, je l'ai connue à l'Institut pastoral où elle a suivi des cours, entre autres, en études bibliques et en théologie aussi. Elle a d'ailleurs terminé un certificat en études pastorales l'année dernière à l'Institut. Et l'année dernière aussi, Mme Bernazzani a publié un livre aux éditions Médiapol dont le titre est « Santé mentale, santé spirituelle, dialogue entre une psychiatre et un théologien ». Ce théologien, c'est Benoît Lacroix, le dominicain bien connu, et donc ils ont tous les deux rédigé ensemble ce livre. Je l'ai invité, Odette, à la fois pour son métier, pour sa réflexion, pour les liens qu'elle fait entre la spiritualité et la psychiatrie. C'est de tout cela qu'elle va nous parler dans un petit moment. Odette Bernazzani, bonjour et bienvenue à cette émission de Radio-VM. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous.
Merci de votre invitation. C'est un grand plaisir d'être ici.
C'est un plaisir partagé, Odette. Bon, j'ai dit que vous étiez médecin psychiatre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai dit que vous étiez aussi professeur à l'Université de Montréal. J'aimerais que vous nous situiez un petit peu votre parcours. Je sais que ça fait plusieurs années déjà que vous êtes à Maisonneuve-Rosemont. Mais il y a d'autres choses dans votre histoire, je pense.
Oui, ben je suis médecin psychiatre maintenant depuis plus de 25 ans à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis quand je réfléchis à mon parcours, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir un parcours diversifié. Et je me rends compte avec le recul que je me suis souvent intéressée à faire des ponts entre différents domaines. En fait, je me suis souvent située à l'interface de différents domaines. Mm-hmm. Par exemple, après mes études en psychiatrie, tout en faisant du travail clinique auprès de mes patients à l'hôpital Maisonneuve, j'ai effectué un doctorat en sciences biomédicales. Et comme j'étais désireuse d'approfondir ma formation en recherche, je suis partie faire une formation postdoctorale de 3 années à Londres, en Angleterre. Je peux dire que ces années à Londres ont été déterminantes quant à mon évolution, mais pas seulement en tant que chercheur, aussi en tant que clinicienne. J'ai travaillé, entre autres, avec une équipe qui était pionnière dans l'étude des modèles psychosociaux de la dépression chez la femme. Pour ceux qui ont des références, c'était les professeurs George Brown et Antonia Bifulco. Mm-hmm. Alors, de mes années avec cette équipe, j'ai appris à documenter avec rigueur les facteurs psychosociaux qui peuvent contribuer au développement d'un problème de santé mentale. Ces années-là ont nourri ma passion pour les histoires de vie et pour l'exploration des facteurs complexes comme les stresseurs, le manque de soutien, les expériences de l'enfance qui peuvent influencer la trajectoire de nos vies. Puis après, à mon retour à Maisonneuve-Rosemont, j'ai concilié pendant plusieurs années des activités de recherche intense et du travail clinique, avant que j'en arrive vers 2003 à peu près, à la décision de réduire mon travail de recherche pour pouvoir me consacrer davantage à un travail de psychiatrie générale en clinique externe, que je poursuis encore jusqu'à maintenant, puis avec beaucoup de plaisir d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, ça s'entend d'ailleurs. Ça doit réclamer énormément de temps et d'énergie. Je constate à vous entendre que vous êtes très orienté vers, disons, du multidisciplinaire, ou en tout cas cette idée de combiner diverses approches, de vous situer au carrefour de plusieurs mm-hmm. dimensions complémentaires. C'est quoi le travail du psychiatre?
En fait, moi, c'est un travail de psychiatre en clinique externe. Oui. Donc, ça veut dire que j'effectue des suivis avec des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Ce sont des personnes, des patients qui présentent des problématiques variées, souvent plusieurs problématiques à la fois, souvent sévères. Donc, des personnes dont les symptômes et la souffrance sont intenses.
Ah oui.
Par exemple, des personnes qui souffrent de psychose, comme la schizophrénie. Donc, elles entendent des voix ou présentent un délire, par exemple de persécution ou religieux. Mm-hmm. Aussi, des personnes qui ont vécu des traumatismes importants pendant l'enfance ou leur vie adulte et qui ont développé un mal de vivre intense, un mal de vivre qui s'exprime par des sentiments douloureux, de rejet, d'abandon. Aussi, des idées suicidaires récurrentes. Puis, parfois aussi, des idées d'automutilation. De l'anxiété, de la dépression récurrente. Également, j'ai beaucoup de patients qui souffrent de plus d'une problématique à la fois, comme une déficience intellectuelle en même temps qu'une maladie affective bipolaire, en même temps qu'un problème d'abus d'alcool ou de drogue. Plusieurs patients vont présenter aussi ce qu'on appelle des troubles qui sont résistants au traitement, ce qui veut dire que leurs symptômes et leurs souffrances demeurent longtemps intenses, malgré les traitements pharmacologiques ou psychologiques.
Vous savez, Odette, je vous écoute et j'ai la même sensation que lorsque j'ai lu le livre aussi. C'est tout un cortège de personnes souffrantes qui défilent sous mes yeux, en fait, qui défilent dans votre bureau aussi. Ça doit présenter des défis immenses de pouvoir aider ces gens-là, les accueillir.
Oui, ben c'est sûr que je dirais que le psychiatre en clinique externe rencontre quand même plusieurs défis. Parmi ceux-ci, je dirais qu'il y a celui primordial d'établir une bonne alliance thérapeutique, souvent avec des personnes qui sont réticentes au suivi ou qui en veulent carrément pas, mais qui sont obligées de venir au rendez-vous par contrainte légale. Il y a aussi, bien sûr, le défi de cerner les problématiques de la personne et de préciser des diagnostics souvent complexes. Il faut aussi tenter de bien identifier les différents volets thérapeutiques, y compris la médication, mais pas seulement la médication, les différents volets thérapeutiques qui sont souvent appelés à évoluer au cours du suivi. Il y a finalement l'enjeu crucial de pouvoir bien soutenir les personnes dans leur processus de réadaptation sociale.
Ah, oui.
Et c'est pour ça, je dirais, à cause de tous ces défis et des besoins complexes des patients, que le psychiatre en clinique externe, bien entendu, travaille pas seul. Donc, c'est certain que je travaille pas seul, mais en collaboration avec une équipe, je dirais, de professionnels de la santé, donc des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières, des ergothérapeutes, des pharmaciens même.
Selon les besoins de la personne.
Tout à fait.
OK. C'est un tableau rapide, j'en suis certaine, trop rapide même, du travail que vous effectuez en clinique externe. Dans ce cadre-là, j'imagine, c'est là que vous avez développé votre réflexion sur la spiritualité ou sur ses liens avec la psychiatrie. Enfin, il me semble que vous devez déjà être débordé par tout ce qui se passe dans votre bureau, dans cette clinique. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de voir un lien entre la psychiatrie et la spiritualité?
Je dirais en fait que ça a commencé tout doucement, je dirais presque même à mon insu. Au départ, j'étais animée par une soif des Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et par un désir d'approfondir ma foi. Pour moi, il s'agissait en fait d'une démarche personnelle que je voulais garder distincte de mon travail. Je me suis inscrite à un premier cours à l'Institut de pastoral appelé Formation des évangiles, cours que vous donniez, Francine.
Oui.
C'est un cours qui a vraiment changé ma vie. Et c'est suite à ce cours-là que j'ai décidé de m'inscrire à un certificat à l'Institut de pastoral en choisissant des cours de Bible et de théologie surtout.
OK. Ça veut dire que même si je pensais à comment vous avez fait les liens entre la psychiatrie et la spiritualité, ce que vous me dites, c'est que la spiritualité, c'était votre cheminement à vous comme croyante. C'était pas en tant que psychiatre du tout?
Oui, tout à fait.
OK, j'ai
tout
bien
à fait.
Compris.
C'est
merci.
C'est le point de départ, c'est vraiment une démarche personnelle. Mais avec mon regard d'aujourd'hui, avec le recul, mais je vois plusieurs apprentissages clés qui ont contribué à mon évolution vers mon intérêt, en fait, pour l'interface entre la psychiatrie et la spiritualité.
OK.
C'est sûr, ce serait trop long de les mentionner tous, mais peut-être que je peux en souligner quelques-uns plus pertinents pour notre propos d'aujourd'hui.
Oui, certainement.
Alors, je dirais que ma première découverte effectuée au cours sur la formation des évangiles et qui a été renouvelée à chaque cours de Bible par la suite, ça a été d'apprendre que les évangiles se situent au niveau de la transmission de sens et non pas au niveau de la transmission des faits. Ça a été une grande surprise pour moi, un choc même, je pourrais dire, mais en même temps, ça a été très stimulant d'apprendre que les évangiles sont pas des biographies ou des récits de la vie de Jésus de Nazareth qui visent pas à rapporter les faits tels qu'ils se sont vraiment passés, ni les véritables paroles de Jésus ou leur contexte exact. J'ai trouvé ça très parlant d'apprendre que les évangiles sont le fruit d'un approfondissement par les premières communautés chrétiennes du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je me suis beaucoup retrouvée dans ces premières communautés de croyants qui cherchent à comprendre et à donner du sens. Et les évangiles sont devenus pour moi des textes vivants d'une très grande richesse pour le croyant et aussi pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. Je dirais qu'une autre notion marquante pour moi que j'ai aussi entendue pour la première fois dans votre cours, Francine, est celle de l'intelligence de la foi. c'est la foi qui cherche à comprendre. Ça m'a renversée. Je découvrais qu'il y a donc une place essentielle pour le comprendre dans la foi, contrairement à ce qu'on pense souvent. L'analyse, l'exploration, la rigueur, qui me sont toutes très importantes, je me rendais compte de leur grande pertinence et de leur légitimité dans une démarche de foi. Grâce à mes cours en théologie et en Bible, j'ai pu constater que la foi et la raison ne s'opposent pas. Au contraire, elles se nourrissent mutuellement.
Oui.
Puis je découvre aussi dans un cours de théologie donné par Bruno Demers, un de vos collègues, un cours sur qu'est-ce que croire, je découvre la notion de raison ouverte, une raison qui est sensible aux différents types de connaissances. Les connaissances scientifiques, bien sûr, mais il y a aussi les autres formes de connaissances. Les connaissances esthétiques, par les voies des arts, par exemple, les connaissances relationnelles qui nous viennent de la relation à l'autre, les connaissances de la foi. Alors, la restriction à une seule forme de connaissance nous limite et nous appauvrit. D'où l'importance d'un dialogue interculturel, un dialogue entre les différentes disciplines qui s'intéressent à l'être humain, les sciences, la philosophie, la théologie, la littérature, les arts, et on peut en nommer plusieurs autres aussi.
Je reconnais tout à fait ce que je disais tantôt à propos de votre parcours. Vous êtes quelqu'un qui aime réfléchir au carrefour de plusieurs disciplines, de plusieurs approches différentes, une sorte d'esprit multidisciplinaire. Je dirais que c'est naturel chez vous, finalement.
Oui, c'est naturel, c'est spontané et sans s'en rendre compte, je dirais, sans m'en rendre compte.
Ben, c'est tant mieux parce que je vois bien là que la théologie, la Bible, la réflexion spirituelle, la pensée scientifique, tout ça se rejoint en vous. Ça fait pas de conflit, au fond.
Non, pas du tout.
C'est comme complémentaire. C'est intéressant.
Puis un autre aspect important aussi au fil de mes cours à l'Institut pastoral, c'est qu'il m'est devenu de plus en plus évident que la relation intime entre le croyant et Dieu était indissociable de la relation à l'autre, qu'elle était appelée à s'incarner, on pourrait dire, dans la relation avec autrui. Mm-hmm. Donc je pense à la magnifique première lettre de Jean qui est si profonde puis qui l'exprime de façon si poétique. Je pense que je vais même permettre d'en citer
oui,
un petit bout.
Certainement.
Alors, quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Petits enfants, nous devons nous aimer, non avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité.
Très, très beau texte de Jean, oui.
C'est très beau. Puis j'aime aussi la parabole du bon samaritain en Luc qui pose la question de qui suis-je le prochain? Alors, pas qui est mon prochain, comme on pense le plus souvent à la parabole, mais de qui suis-je le prochain? Alors, ça m'est devenu de plus en plus difficile d'exclure mon travail dans ce contexte-là de ma réflexion sur la foi et la spiritualité.
Oui, je vois.
Doucement, mon travail est même devenu un des contextes privilégiés pour ma réflexion. Puis j'ai assisté au cours formidable de Yolande Frappier sur l'écoute en tant que source de transformation, qui m'a beaucoup inspirée et qui a été un peu comme un marqueur pour moi.
Ah oui.
Ce cours est venu renforcer, ancrer mon désir d'approfondir ce qui, dans l'héritage chrétien ou la spiritualité chrétienne, peut être parlant pour l'homme et la femme d'aujourd'hui, qu'ils soient croyants ou non. Et ça m'interpelle encore beaucoup aujourd'hui.
Odette, je dirais que vous nous donnez vraiment du matériel sur lequel on peut réfléchir avec cette évocation si brève à la fois de votre travail et de votre parcours comme étudiante en théologie et en Bible. Si vous permettez, on va prendre une pause, on va un peu méditer là-dessus et après, on revient avec le livre « Santé mentale, santé spirituelle » ou un dialogue entre une psychiatre et un théologien
oui.
que vous avez publié l'année dernière.
C'est bien parfait.
Écoutez l'émission « Foi et turbulence ». Je suis en compagnie de Mme Odette Bernadiani, qui est médecin psychiatre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a été aussi étudiante à l'Institut pastoral et donc qui fait les liens entre expérience croyante et expérience professionnelle en psychiatrie. Odette Bernazzani, vous avez publié l'année dernière un petit bouquin très intéressant. Ce petit livre qui a été publié avec le père Benoît Lacroix, qui est super connu comme dominicain. C'est ce parcours-là que vous venez d'évoquer pour nous brièvement, j'imagine, qui vous a conduit à écrire ce livre. Enfin, je ne sais pas comment est venu le projet. Je rappelle le titre, c'est « Santé mentale et santé spirituelle » ou « Un dialogue entre une psychiatre et un théologien ».
Oui, c'est ça.
Quelque chose comme ça.
Tout à fait.
OK, alors comment est-ce que c'est venu ce projet?
En fait, le livre avec le père Lacroix constitue un point d'ancrage central dans ma démarche, un point d'enracinement, je dirais. C'est un projet qui est parti de notre désir de réfléchir ensemble à la souffrance et à la résilience humaine. Le livre, en fait, c'est un échange autour de 25 histoires de vie inspirées de celles de certains de mes patients. On a beaucoup discuté ensemble, le père Lacroix et moi, du sens de notre démarche, de ce qu'on voulait en faire, de ce qui était parlant pour nous. Et on s'est engagé dans un dialogue entre la psychiatrie et la spiritualité avec l'espoir que ça puisse contribuer à un regard enrichi sur les personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale et à combattre la stigmatisation qui les touche encore beaucoup trop.
Ouais.
En des mots plus simples, on pourrait dire que ce qui est important pour nous, c'est de faire connaître et aimer les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, de leur donner un visage, de les rendre plus proches de nous, un visage autre que celui souvent très négatif qui est véhiculé dans les médias. Ce sont des personnes touchantes qui valent la peine d'être connues. Alors, notre livre, il s'agit pas du tout d'une démarche théorique ni même intellectuelle, plus une démarche expérientielle, peut-être on pourrait dire, qui est centrée autour de l'expérience de l'écoute des personnes et que le lecteur est invité à partager avec nous.
Oui, je peux confirmer ça. De fait, c'est pas du tout un livre théorique. Et je peux vous confirmer aussi, Odette, que vous atteignez votre objectif, si votre objectif, c'est de nous les faire connaître et de nous les rendre sympathiques. Parce que moi, en lisant ces portraits très brefs de gens, les uns après les autres, qui souffrent de toutes sortes de problèmes, qui ont des histoires de vie vraiment parfois difficiles, c'est triste, c'est je dirais pas que c'est un livre joyeux, mais on sent bien la confiance en la résilience qui est là tout le temps. Et oui, je peux vous dire, si votre objectif, c'est de nous les faire aimer, de nous les rendre plus proches, plus sympathiques, ça, c'est réussi.
Ah, je vous remercie.
Alors, bravo.
Je suis contente d'entendre ça. Alors, mais c'est à la lumière de cette démarche très expérientielle avec le père Lacroix et de mes études à l'Institut de pastoral que je me suis engagée dans une voie d'approfondissement de ce qui constitue pour moi l'essentiel, le cœur même du métier de psychiatre. Une question qui s'est élargie ensuite progressivement à l'exploration de la pertinence de parler de spiritualité en psychiatrie.
D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser ce que vous entendez par spiritualité? Il y a tellement de définitions sur le marché.
C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus quant à la définition de spiritualité, mais la plupart des personnes qui s'y intéressent s'entendent pour dire que la spiritualité relève du savoir-être. Quant à moi, j'aime beaucoup la définition du sociologue et prêtre Jacques Grandmaison, qui écrit dans son dernier livre sur la spiritualité laïque au quotidien, « La spiritualité, c'est ce qui vient du plus profond de soi et qui, en même temps, nous dépasse. »
Que c'est beau, redites-nous donc ça.
C'est très beau. Alors, la spiritualité, c'est ce qui vient du plus profond de soi et qui, en même temps, nous dépasse.
Donc, c'est en nous et c'est hors de nous.
Tout à fait, oui. Et c'est profond dans les deux sens, si on peut dire.
Oui, tout à fait.
Pour moi, dit beaucoup plus simplement, le regard spirituel, c'est un regard qui permet de voir au-delà du déterminisme de la biologie et de la matérialité. C'est aussi l'aspiration à s'inscrire dans quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse. C'est aussi en lien avec le désir de donner du sens accru à son existence, un appel à exister pleinement.
Je commence à pressentir un peu le lien que vous voyez entre spiritualité et psychiatrie, Odette. Alors, précisez-nous, s'il vous plaît, quelle place vous voyez pour ce regard spirituel dans le domaine de la psychiatrie? Qu'est-ce que ça peut apporter?
Oui, alors, à mon avis, la perspective spirituelle peut contribuer à un regard enrichi en psychiatrie que j'examine en lien avec trois aspects principaux. D'abord, un regard enrichi sur le rôle de soignant. Ensuite, sur les personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale. Et enfin, sur la vulnérabilité, la fragilité et la souffrance même.
D'accord. Donc, un, le rôle de soignant. Deux, les personnes elle-même souffrante et 3, la souffrance en général. Alors, si on commençait avec comment ça influence le rôle de soignant de penser à la spiritualité au niveau d'un psychiatre.
Alors, comme point de départ à ma réflexion, je vous propose le mot profond d'une jeune femme que j'aime beaucoup, Etty Illesum, mm-hmm. qui est décédée à l'âge de 29 ans à Auschwitz. Elle a écrit un magnifique journal où elle dit « Et là où l'on est, être présent à 100%. Mon faire consistera à être. »
Ouais.
C'est très pertinent parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de faire dans le rôle du psychiatre. Par exemple, identifier les principales problématiques présentées par un patient, discuter avec lui des volets thérapeutiques pertinents, prescrire une médication, discuter avec les professionnels de l'équipe. Il y a aussi beaucoup d'écoute du patient, de ses souffrances, de ses difficultés, de ses symptômes, de son histoire de vie, mais aussi de ses projets, de ses rêves, de ses aspirations.
Mm-hmm.
Mais en réfléchissant à ce qui constitue l'essence même du métier de psychiatre, j'en suis venue à explorer un angle qui relève du savoir-être et qui s'adresse potentiellement à tout écoutant, l'appel plus profond du être à l'écoute. Et je veux redire que je suis très redevable à Yolande Frappier pour son excellent cours à l'Institut pastoral qui m'a introduite à cette réflexion.
Sur l'écoute, source de transformation, c'est ça?
Oui, exactement.
Vous savez, Odette, on a l'impression que ça va de soi quand on est psychiatre, être à l'écoute. Enfin, c'est comme ça que je vous imagine, assise dans votre bureau en train d'écouter les gens. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous essayez de dire? Vous parlez de l'appel plus profond, de être à l'écoute. De quel être à l'écoute vous parlez?
Oui, votre question est vraiment pertinente. En fait, le être à l'écoute, je dirais que ça relève de la qualité, de la nature du être en relation. Ça fait référence à l'accueil de l'autre, tel qu'il est à ce moment de son existence où il entre en relation avec moi. Le être à l'écoute, c'est pas synonyme d'écouter, bien que ça le requiert. Il s'agit d'écouter le vivant dans l'autre, de chercher l'indicible, la profondeur qui habite l'autre.
Donc, c'est pas écouter seulement les mots qui sont prononcés, les phrases que la personne dit.
Tout à fait. On peut dire ça autrement aussi en disant reconnaître l'autre comme personne et contribuer à le révéler à lui-même.
Mm-hmm.
Situer l'autre dans sa position d'homme, de femme à part entière. En d'autres mots, aider le patient, l'autre, à devenir sujet de sa propre histoire, à s'approprier sa propre histoire.
Oui.
En pratique, le être à l'écoute, ça veut dire créer un espace sécurisant pour que le patient puisse déployer progressivement devant moi et devant lui-même ce qu'il est et ce qu'il est appelé à devenir. C'est donc accepter de se soumettre au rythme de la croissance de l'autre, sans que nous puissions savoir à l'avance, ni lui ni moi, quels seront les chemins à parcourir. Ça demande du temps, de la patience et une attitude d'humilité face aux résultats qui peuvent être difficiles à percevoir à court terme.
Mm-hmm.
Le être à l'écoute, c'est aussi être confronté aux paradoxes, aux contradictions de l'autre, sans vouloir les faire disparaître à tout prix. C'est tenter de cheminer dans le respect des désaccords et des perceptions difficiles à réconcilier au nom de la dignité humaine. C'est soutenir le cheminement de la personne, souvent long, vers une appropriation de sa dignité d'homme ou de femme.
Mm-hmm. Vous dites ça demande du temps, ça demande de soutenir un cheminement, ça demande de la patience, de l'humilité. J'ai l'impression qu'au fond, si je vous comprends bien, ce que ça demande, c'est de croire en l'autre. L'écoute dont vous parlez, elle repose essentiellement sur le fait que vous pouvez croire en ce que la personne est, ce qu'elle peut devenir.
Ah oui, tout à fait. C'est tellement important. Croire en l'autre, croire à la personne aussi plutôt que savoir à son sujet.
Ah oui, croire en ce qu'elle est plutôt que savoir ce qu'elle a.
Oui, savoir ce qu'elle a, ou même cette prétention toujours dangereuse de savoir qui elle est.
Ah oui.
En ce sens, le désir de comprendre, qui est légitime de tout psy, mais doit être sondé constamment, afin d'éviter de glisser vers une pente d'absolu, celle de vouloir comprendre notre patient une fois pour toutes, mm-hmm. avec le risque de limiter le patient à ce que j'ai compris de lui. Croire en l'autre, c'est tellement important, surtout lorsque lui ne croit plus en lui. Pendant ce que j'appelle les longues traversées du désert, où rien ne semble avancer ou s'améliorer. On continue de croire en l'autre, en sa capacité de grandir, en son potentiel, de par sa qualité de personne en devenir. Parce qu'on peut dire qu'en chacun de nous réside un mystère, celui de l'être en devenir. Et en tant que chercheur de la profondeur qui habite l'autre, je conçois que je ne peux saisir mon patient dans sa totalité.
On ne fait pas l'enfermer.
Oui, exactement.
D'accord.
L'autre, mon patient, est toujours plus que ses paroles, ses pensées, ses actes. Il me dépasse et me dépassera toujours. En ce sens, il est plus grand que mes perceptions de lui et que même ses propres perceptions de lui-même.
Oui, l'image qu'il a de lui-même est insuffisante par rapport à ce qu'il est vraiment en profondeur.
Oui, exactement.
D'accord.
Oui. On peut dire en fait que nous sommes tous plus grands que nous-mêmes.
Mm-hmm.
Et en tant que psy, écoutant, on travaille dans le domaine du complexe, de l'inachevé. Mais pour moi, le mystère de l'être en devenir, c'est une source d'espoir. Cette perspective m'inspire à garder espoir pour mes patients, quelles que soient les difficultés rencontrées.
Mmh. Odette Bernazzani, ce que vous dites, ça a beaucoup de souffle. Je dirais, c'est beau. Si j'étais cynique, je dirais, c'est des belles valeurs. Mais... Vous voyez, alors même des points de suspension. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de comment vous faites atterrir ça dans vos pratiques. Je peux pas faire autrement qu'être d'accord avec tout ça, mais j'ai du mal à imaginer comment ça peut vraiment influencer une pratique concrète. Vous êtes dans votre bureau, vous avez des gens en souffrance. Comment est-ce que votre regard, influencé par votre spiritualité, se reflète dans votre pratique?
Alors là, vous me demandez de parler un petit peu de la vraie vie, dans le fond. Comment ça se passe dans la vraie vie?
Oui, bien qu'à mon avis, quand on est au niveau de profondeur où on était tantôt, on est encore dans la vraie vie, mais disons le quotidien.
Je dirais que la nature de mon accompagnement s'est progressivement modifiée avec le temps. Par exemple, je suis devenue de plus en plus sensible à l'importance de bien équilibrer mon discours sur la maladie, les symptômes, les traitements, avec toute l'importance que je veux donner au soutien du patient dans l'exploration de son vécu, de ses intérêts, ses aspirations, ses projets, si timides ou si embryonnaires soient-ils.
OK. Juste parce que vous croyez, je m'excuse de vous interrompre, parce que vous croyez en la personne, au fond, vous devenez attentive, entre autres, pas rien qu'à ce qu'elle vit avec sa maladie, ses problèmes, mais à ses aspirations et ses projets.
Oui.
Lorsqu'elle peut en avoir à peine une petite pointe de rien.
Tout à fait. Elle a projeté dans le futur, comme tous, on souhaite aussi se projeter dans le futur.
D'accord.
Aussi, quand je discute des vulnérabilités de la personne, j'essaie de mettre en lumière ses forces. Je m'exprime davantage sur les forces, les compétences et les aspects de résilience que j'ai pu observer chez la personne.
Mm-hmm. Ça veut dire que vous lui manifestez que vous croyez en elle en faisant ça.
Oui, tout à fait. C'est important.
Oui.
De le concrétiser, je dirais, de pas juste le garder dans ma tête et dans mon cœur, mais de le concrétiser, de l'actualiser aussi.
Mm-hmm.
Donc, mon accompagnement vise bien sûr à aider la personne à s'approprier le fait qu'elle souffre d'une maladie, à composer avec sa maladie, mais de façon à pouvoir la dépasser. C'est-à-dire de façon à ce que la personne puisse, elle aussi, se réaliser comme chacun de nous, on le souhaite.
Je vois bien là comment la spiritualité joue son rôle, effectivement. Mais est-ce que le fait d'être croyante, ça inspire votre manière d'accueillir vos patients? Bon, je vais vous donner le temps d'y penser. On va écouter un peu de musique.
C'est bon.
A great light, a great light.
Nous sommes toujours à Foi et Turbulence. Mon invitée est Odette Bernazzani. Elle est médecin psychiatre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Odette, vous nous avez parlé donc des valeurs qui inspirent votre manière d'accueillir vos patients, de les écouter. J'aime ce que vous avez dit. Vous avez même dit que savoir écouter, c'est une manière d'être et non pas seulement un savoir-faire. On s'est entendu pour dire que ça suppose qu'il faut croire en l'autre. Bon, la spiritualité, c'est aussi parfois la religion. Vous êtes croyante. Est-ce que le fait d'être croyante, ça vous aide à...
Je pense que comme croyante, je laisse aussi un espace aux patients pour parler de spiritualité s'ils le souhaitent. Il y a tant de patients qui n'osent pas nous parler de leur foi ou de leur religion, quelle qu'elle soit, de peur d'être jugés en psychiatrie, qui gardent ça là, vraiment comme un sujet tabou. Mais maintenant, quand un patient porte une petite croix au cou, par exemple, je le questionne sur le sens de la petite croix, sur le soutien qui lui est apporté par la foi ou par sa religion. Par exemple, on a plusieurs patients de religion musulmane. Donc maintenant, je questionne plus directement. J'attends pas nécessairement que les patients en parlent spontanément.
OK. Puis vous questionnez de manière à ce qu'ils sentent que vous pouvez faire de la place à leur expérience croyante, que vous avez du respect, de l'accueil.
Tout à fait. Et que je trouve que c'est un soutien important pour eux. Si je peux, moi, comment je dirais, les soutenir dans leur démarche, je le fais avec plaisir. Aussi, sur un plan très pratico-pratique, lorsqu'un patient mentionne qu'il lit la Bible, maintenant, je m'intéresse aux textes spécifiques qui l'interpellent. Okay. Comme plusieurs patients vont parler du livre de Job. Évidemment, Job qui crie sa souffrance à Dieu et qui a le sentiment d'être abandonné par Dieu. Alors, c'est un texte qui revient souvent. Puis même chez les patients, en fait, qui présentent un délit religieux, donc qui entendent la voix de Dieu, qui ressentent Dieu ou le diable dans leur corps, je prends soin de me rappeler que derrière la maladie, il y a aussi la foi, qu'il y a un croyant dont je souhaite respecter la dignité.
C'est un atout précieux, finalement, la place que la foi ou la spiritualité joue dans votre vie. Je me rends compte que c'est un atout pour la professionnelle que vous êtes aussi.
Je crois que oui, qui est encore, je dirais, à développer, parce que c'est vraiment un sujet tabou pour les patients. Donc, je ne peux pas dire que c'est déployé peut-être encore suffisamment, même dans mon suivi avec les patients, mais ça aussi, je l'espère, c'est en devenir. Sur un autre plan, comme j'ai beaucoup de patients qui viennent en suivi contre leur gré, qui sont obligés par la loi, je travaille beaucoup aussi à tenter de trouver des points d'entente sur lesquels on peut construire une relation. Ça veut dire souvent commencer par mettre en lumière nos différents points de vue, certains qui sont irréconciliables puis qui vont même le demeurer, en fait. Mais on essaie aussi de trouver un point d'entente commun, qui est le plus souvent la souffrance ressentie par la personne. J'accueille et je reconnais que la souffrance vécue par mon patient est bien réelle, même si nous sommes en désaccord avec la cause de la souffrance.
Pouvez-vous me donner des exemples? J'ai du mal à suivre ça.
Oui, ben par exemple, mon patient est convaincu que ses voix sont liées à du harcèlement criminel.
OK, il entend des voix.
Oui, et il est convaincu, en fait, donc ça vient de phénomènes étranges ou de harcèlement criminel.
De quelqu'un qui lui en veut, menace, d'accord.
Oui. Tandis que moi, ben, je crois qu'il souffre d'une maladie qui est appelée la schizophrénie.
C'est là que vous pouvez ne pas être d'accord, vous et votre patient.
Tout à fait, et ce, pendant bien longtemps, pendant même de nombreuses années, en fait. Mais on peut se mettre d'accord sur la souffrance qui est bien réelle du patient. Et je mets souvent l'emphase sur le fait qu'on doit accepter tous les deux ce que j'appelle en anglais le « agree to disagree », c'est-à-dire qu'on doit s'entendre sur le fait qu'on ne pourra pas être d'accord sur la cause de la souffrance. On va chacun demeurer avec ce que j'appelle nos hypothèses respectives sur la cause, mais l'important, c'est de tenter de trouver des moyens de soulager la souffrance.
Cette souffrance qui, elle, est bien réelle. Ça veut dire que, pour vous, ces personnes-là, finalement, ne sont pas seulement des malades, ce sont des gens qui souffrent de maladies.
Ah oui, pour moi, la personne est au premier plan et je trouve que même dans les détails aussi, il faut accorder de l'importance au langage aussi. C'est tellement important. Par exemple, dans les dossiers médicaux, il y a une formulation rapide qu'on écrit souvent, « qu'à discuter ». Alors, même si c'est pratique, j'essaie maintenant d'éviter ce terme.
Oui, qui ramène la personne à un « cas ».
Oui, j'aime pas le mot cas qui suggère un objet et pas une personne, en fait. Hein. Également, j'essaie de bannir de mon vocabulaire l'usage du diagnostic pour parler de la personne. Un schizophrène, un bipolaire, plutôt qu'une personne qui souffre de schizophrénie, une personne qui souffre de maladie bipolaire. Dire c'est un schizophrène, c'est réduire une personne à son diagnostic, à sa maladie. C'est contribuer à la stigmatisation, je trouve. Et il faut travailler à bannir ça en psychiatrie, en médecine, chez les patients eux-mêmes et dans la société, bien sûr.
Savez-vous, Odette, que vous êtes d'accord avec Luc, l'évangile de Luc?
Oui.
Là où, par exemple, chez Matthieu et Marc, on lit « Et un lépreux s'approcha de Jésus », chez Luc, on lit « Un homme couvert de lèpre s'approcha de Jésus ». Vous voyez, c'est la personne qui a la lèpre, c'est pas un lépreux.
Tout à fait, c'est formidable.
Oui, donc je trouve cette complicité entre vous et Luc intéressante, bien qu'elle ne m'étonne pas, mais ça me fait tout à fait penser aux étiquettes. Il n'y a pas que les psychiatres qui risquent, vous savez, de faire cette utilisation du langage en parlant d'un cas, d'un schizophrène, d'un bipolaire. Ce sont des étiquettes qui circulent dans la société, on les met sur les gens. Ça me fait penser, entre autres, à deux publicités à la télévision et qui illustre ça. C'est peut-être deux cas assez différents. J'aimerais avoir votre avis. Bon, le premier cas, c'est « As-tu vu la folle? » Vous savez, c'est un petit groupe d'adolescents, peut-être que vous les avez vus, ils sont à l'école et regardent la folle ou quelque chose comme ça. Et puis, l'autre répond « Ben oui, la folle. » Et puis après, la troisième ou quatrième fois que c'est répété, celle qui répondait la même chose que les autres dit « Elle est pas folle, elle est malade. »
Ouais, elle est malade et allons lui parler.
Allons lui parler.
Oh, c'est ça, je trouve cette annonce-là presque bouleversante, en fait. Je trouve que c'est formidable. C'est donc, alors, la folle qui est finalement une définition tellement réductionniste de la personne, alors qu'on dit, mais non, pas du tout, elle est malade. Donc, on voit la souffrance, on voit la maladie, mais on se limite pas non plus à la souffrance, à la maladie. On voit que c'est une personne, donc, qui est capable d'être en relation. On dit, on va lui parler. C'est une personne, donc, qui vaut la peine d'être connu. Et en ce sens-là, je trouve que c'est aussi très poignant parce que ça montre qu'on est tous concernés, on est tous interdépendants et aussi parce que je me dis un problème de santé mentale, il ne faut jamais oublier que ça peut nous arriver à tous. Ça n'arrive pas juste aux autres, ça pourrait arriver à nos proches et ça pourrait nous arriver à nous aussi.
Voilà. Et donc, quand la jeune étudiante dit « Non, elle n'est pas folle, allons lui parler », elle reconnaît que l'autre est aussi une adolescente comme elle-même.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
D'accord. L'autre annonce, c'est peut-être une autre sorte de problème que ça illustre, mais que je trouve très pertinente comme annonce aussi. C'est à propos des gens qui ont des congés de maladie, donc qui sont absents de leur travail parce que ils souffrent de dépression. Et alors, les autres ont l'impression que ces gens-là sont en vacances.
Ah ouais.
Et j'entendais même quelqu'un à la radio, c'est ça, qui disait « En même temps que mon congé pour dépression, mon conjoint était aussi en congé pour une jambe cassée. Il a reçu plein de cartes de bons vœux, tout ça. Moi, rien du tout.
Ouais. »
Les gens ont l'impression que tu es en vacances.
Ouais. C'est encore intriguant que ce soit encore comme ça maintenant, en fait, de banaliser à quel point finalement la dépression donne de la souffrance morale, donne de la souffrance physique. Moi aussi, je pense à un patient récemment qui me disait encore la même chose. Une collègue de travail, pourtant, qui était proche de lui, qui lui disait spontanément « Oh mon Dieu, que j'aimerais ça être à ta place en congé ». Alors, j'étais contente parce que mon patient a trouvé le courage de lui dire « Non, je suis pas en congé, je suis souffrant, je suis obligée d'être à la maison, puis moi, j'aimerais beaucoup mieux être au travail comme toi. » Mais malheureusement, oui, ce sont encore des préjugés qui sont encore beaucoup véhiculés. Ça, je pense qu'il faut dénoncer ça et les publicités, je trouve ça formidable dans ce sens-là.
Oui, il y a vraiment un effort là pour sensibiliser les gens. Puis je m'aperçois qu'on connaît rien, on connaît bien mal, en tout cas, les problèmes de santé mentale. Mmh. Et vous avez bien raison de dire ça peut nous arriver à tous. On a toujours l'impression que ça concerne les autres. Alors que si on voit quelqu'un avec une jambe cassée, on se dit « Oups, il faut que je fasse attention.
Mmh. » Ouais.
Ça pourrait m'arriver n'importe quand, mais pas jamais une psychose ou une dépression. Oui, là-dessus, en tout cas, espérons que à la fois des publicités comme ça, mais des entrevues avec des gens comme vous, ça peut aider à sensibiliser un peu les gens, à sortir des espèces de clichés desquels on est un peu prisonnier.
Oui, puis il y a encore de la place pour faire beaucoup de choses, je dirais.
Sûrement. Odette Bernazzani, vous nous avez parlé beaucoup de vos patients, de votre écoute. Est-ce que, bon, cette dimension spirituelle qui éclaire votre travail, votre pratique professionnelle, est-ce que ça a un impact à rebours sur vous-même?
Ah oui, définitivement. Le être à l'écoute vise d'abord un processus de transformation chez le patient écouté, mais en même temps, il devient une source de transformation pour le psy écoutant.
Oui.
Par exemple, petit à petit, au fil des années, mon suivi des patients est devenu pour moi un accompagnement sur une route d'humanité. Mon suivi intègre encore, bien sûr, des éléments d'évaluation et de pharmacothérapie qui sont indispensables, mais il aspire à les dépasser. Je cherche à offrir ma présence à l'autre. J'aime beaucoup le symbole du faire route avec ou marcher avec. Je marche avec mon patient. Je recherche toujours davantage un état d'être plutôt que de faire sans vouloir ou pouvoir sacrifier le faire. C'est un peu comme si mon faire ou mes faires se teintent progressivement du être, du moins je l'espère.
Ça rappelle tout à fait ce que vous disiez à propos de E.T. Ellison. Ce que je ferai, c'est être là, ou en tout cas, je le dis de mémoire.
Ouais.
Là, mais...
Mon faire consistera à être.
Être, c'est tout à fait.
Mais c'est sûr qu'une fois qu'on dit ça dans la vraie vie, ben, il reste le grand défi de réconcilier tout ça. Réconcilier le être à l'écoute avec ce qu'il faut faire, les contraintes de temps et d'organisation, les situations des patients qui sont suivis contre leur gré. Je dirais que dans la vraie vie, il y a toujours des tensions entre le rôle de l'écoutant puis les autres volets du rôle de psychiatre. Je suis même certaine que certains de mes patients seraient très surpris de m'entendre parler de cette façon et qui diraient « Voyons donc, elle n'est pas du tout comme ça, docteur Bernazzani, dans la vraie vie. » Il n'y a pas de solution facile. Hein.
Oui.
Le rôle d'écoutant, ça s'actualise au jour le jour d'une relation à l'autre. Il est exigeant, toujours en devenir. Il y a des ratés aussi, ça c'est sûr. Mais un autre symbole aussi qui m'est très aidant dans la vie quotidienne, c'est celui de la main tendue. Les trois paraboles dans le chapitre 15 sur la miséricorde dans l'Évangile de Luc m'inspirent beaucoup en ce sens. La main du psy qui demeure toujours tendue, un peu comme le berger qui cherche sa brebis sans relâche ou la ménagère qui cherche sa pièce de monnaie. Aussi le père dans la parabole du fils prodigue qui attend son fils sans relâche et qui accueille son retour avec effusion. En même temps, il respecte le choix et la liberté de son fils en le laissant partir, même s'il est évident que le choix du fils va probablement lui amener bien des difficultés. Je trouve que ça représente bien tout notre défi dans la relation thérapeutique. La main du psy qui veut demeurer toujours tendue, mais dans le respect de la liberté de l'autre.
Oui.
Et en ce sens, le regard spirituel est aussi pour moi un antidote au sentiment d'impuissance qui nous guette toujours. Il permet de garder vivante la créativité réflexive du psy et sa persévérance dans la recherche des moyens pour aider.
Oui, vous venez de dire une chose qui me frappe, Odette, particulièrement, un antidote au sentiment d'impuissance. C'est vrai, c'est-à-dire avec les maladies, les traumatismes que les gens que vous rencontrez ont vécu, c'est quelque chose. Et en même temps, la bibliste en moi est allumée par votre évocation du chapitre 15 de l'Évangile de Luc, les paraboles de la miséricorde.
Oui.
Et il me semble que ces paraboles nous parlent du regard que Dieu porte sur nous. Hein?
Oui.
Et pas juste sur nous, comme vos patients, par exemple, qui sont particulièrement souffrants et face à qui on peut se sentir bien impuissant, oui. Mais le regard que Dieu porte sur l'humanité, quoi, sur nous comme êtres humains, susceptibles d'être souffrants de tout, susceptibles d'être mal aimés, d'être, enfin, sur l'humanité fragile, je dirais, vulnérable. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez commenter s'il y a quelque chose dans votre spiritualité qui porte ce regard de Dieu sur nous? Est-ce que ça influence votre regard sur les personnes qui souffrent?
Je crois que oui. D'abord, ce que je dirais d'emblée, il faut le dire et le redire, c'est qu'une personne est toujours beaucoup plus que la somme de ses symptômes. Qu'une personne ne doit jamais être réduite à sa maladie, quelle qu'elle soit, même si elle est grave. En plus, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, je l'ai déjà dit, sont des personnes touchantes qui valent la peine d'être connues. Je trouve qu'à leur contact, on s'humanise. On devient plus sensible à la souffrance, mais aussi à la résilience humaine. on apprend de leur courage et de leur dignité. Le contact avec des personnes vulnérables nous renvoie aussi à nos propres fragilités et nous permet de travailler à l'accueil de nos propres limites. Mm-hmm. C'est cette façon aussi, surtout, je dirais, qu'on s'humanise. Et ça nous conduit à un potentiel de relations toujours plus authentiques, ce qui m'apparaît être l'essentiel.
Oui.
En côtoyant des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, on constate aussi qu'au-delà de leurs souffrances qui sont profondes, leurs projets, leurs aspirations, leurs rêves rejoignent souvent les nôtres. Au fil du suivi, je trouve que le regard spirituel aide à ce que s'amenuise dans ma perception la différence entre l'autre et moi. Mm-hmm. En surface, au départ, je perçois tout ce qui me distingue de mon patient. Il entend des voix, pas moi. Sa vie est désorganisée, pas moi, enfin pas trop. Mm-hmm. Ses souffrances sont singulières, bien sûr, mais parce que nous sommes tous des êtres singuliers. La souffrance, elle est universelle. En tant qu'être humain, on est tous limités. Nous avons tous nos fragilités. Et nous sommes tous interdépendants dans notre besoin d'aide. Mm-hmm. J'aime beaucoup cette phrase dont je n'ai pas encore retrouvé l'auteur qui dit que « nous sommes uniques mais indivisibles ». Moi, je traduis par « il n'y a pas de croissance personnelle sans l'autre ». Entre moi et moi, il y a l'autre. C'est d'un psychanalyste français, André Roussillon.
Cette dernière phrase-là, « entre moi et moi, il y a l'autre ».
Oui, tout à fait.
D'accord.
Qui est si belle, je
trouve. En effet.
Qui est si spirituelle, en fait. Hein?
C'est vrai.
Tout ça, ça m'amène à proposer un éloge de la vulnérabilité, de la fragilité, des limites. Pas du tout dans le sens de les rechercher, bien sûr. Je trouve qu'on n'a pas besoin de rechercher la souffrance, elle vient de toute façon. Mm-hmm. Mais c'est un éloge de la vulnérabilité par opposition à la recherche incessante de la force, de la performance, des succès, qui peut nous déshumaniser en nous éloignant des relations humaines plus authentiques. Si vous permettez, j'aimerais pour terminer, si on a encore un peu de temps,
oui,
citer un extrait du texte de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui constitue un milieu de vie pour les personnes souffrant non pas de problèmes de santé mentale, mais de déficience intellectuelle. Mais son propos est universel. Alors je vous le lis, il dit « Cette expérience de la fragilité n'est pas seulement celle de l'Arche, elle est universelle. Mais parce que nous avons le privilège de vivre avec des personnes handicapées, nous sommes au cœur d'un secret d'humanité que nous devons dire au monde et révéler. La fragilité, quand on l'accueille et quand on l'aime, permet la relation, et cette relation devient une relation de paix. »
C'est très beau.
C'est très beau, hein, et très juste aussi.
Oui.
Et moi, je pense que je vais peut-être me permettre de rajouter un mot bien personnel, que c'est dans cet accueil de la fragilité, la sienne et celle des autres, que l'être humain se rapproche de sa véritable raison d'être, celle d'aimer.
Eh bien, ce sera effectivement un mot bien personnel et aussi votre dernier mot, Odette Bernazzani, parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Un immense merci, ça a été super intéressant. Merci d'avoir partagé cette expérience à la fois professionnelle et spirituelle avec nous. Merci de nous avoir parlé de votre vision de la personne humaine. C'est une vision que je trouve positive, encourageante, accueillante. C'est une vision qui fait du bien et ça, je l'apprécie énormément. Je rappelle que vous avez publié donc un livre chez Mediapol avec le frère Benoît Lacroix, dominicain, qui s'appelle « Santé mentale et santé spirituelle », publié en 2014. Donc, un immense merci, Odette.
À mon tour de vous remercier, Francine. Ça a été un grand plaisir et un grand privilège d'être ici et de partager avec vous.
Un plaisir tout à fait partagé. Merci, Odette. Merci aussi à Serge Plaisance pour la mise en onde de cette émission et pour son soutien technique. Et mesdames, messieurs, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Au microphone, c'est Francine Robert pour l'Institut de pastoral des Dominicains. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio-VM. Au revoir.
C'était « Foi et turbulence ».